Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast vous est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode 27, les funérailles chrétiennes. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier épisode de cette saison. Nous avons parcouru ensemble tous les sacrements, toute la liturgie, chacun des sacrements, etc. Je crois que c'était très très instructif. En tout cas, c'était très très intéressant pour moi de relire en détail chacune de ces questions. Comme vous le savez, nous nous retrouverons à partir de la rentrée au mois de septembre pour commencer la troisième saison qui parle de la morale, donc les actes humains, la dignité de l'homme, et puis les 10 commandements. Et puis il y aura une quatrième saison pour la quatrième partie du catéchisme sur la prière chrétienne. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Je commence par cette réflexion que peut-être j'ai déjà faite ici. La seule chose que tous les êtres humains ont en commun, c'est qu'ils vont mourir. La seule chose qui est due à la nature humaine, c'est la mort. D'une certaine façon, je crois que c'est le cardinal Pie qui avait cette expression, au moment de sa naissance, tout homme n'a que deux droits, il n'y a que deux droits de l'homme, mourir et aller en enfer. Bon, c'est un peu radical. Aller en enfer, c'est à cause du péché originel dont la nature humaine est blessée. Si on considère qu'un droit est quelque chose qui est acquis par des mérites, eh bien, les droits ne sont pas a priori, sauf dans les sociétés libérales actuelles où les droits sont des revendications, des acquis sociaux. Dans une vision réaliste, naturelle de la société, celui qui naît n'a que des devoirs, puisqu'il ne fait qu'il a reçu sa vie de quelqu'un d'autre, il a reçu la nourriture de ses parents, il reçoit une culture, une civilisation que d'autres ont construit pour lui, avant lui. Et donc, en soi, il est redevable de tout ça, mais il ne possède rien, il n'a aucun droit. Si ce n'est celui de mourir, puisque c'est la conséquence naturelle de la vie humaine. Alors, je dis ça bien sûr de façon un peu provocatrice, mais finalement, on vit dans un monde où on a complètement supprimé la présence de la mort. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais en tant que prêtre, j'ai fait beaucoup plus de baptêmes que d'obsèques. J'ai des confrères qui ont fait un tas d'obsèques, ceux qui sont en paroisse, surtout les paroisses de campagne où le prêtre doit faire les enterrements, etc. Et même souvent il peut pas tellement il y en a. Dans les milieux disons traditionalistes, en général, ce sont beaucoup de familles. Il y a peu de personnes âgées en proportion, et donc il y a peu d'obsèques. Et moi-même, n'ayant jamais été disons dans une paroisse au sens strict, puisque j'ai toujours été dans l'enseignement ou dans l'administration de la communauté, eh bien, je n'ai fait que les obsèques soient de gens que je connaissais, de ma famille, ou des amis proches, ou des gens qui m'ont sollicité pour tel ou tel décès. Donc, je n'ai fait quelques-unes, bien sûr. Et j'ai toujours été frappé par vous savez qu'on est en présence d'un mort. C'est quelque chose d'assez troublant et qui ne laisse pas indifférent. Enfin, il y a un aspect sacré de la mort finalement. Quand on est face à la mort, c'est un corps qui ne bouge plus, mais c'est quelque chose d'assez émouvant évidemment, mais d'assez qui nous place face à nous-mêmes. Voilà. Et donc je disais, j'ai été assez frappé. Par exemple, quand j'étais séminariste, j'avais été envoyé faire un stage dans une maison pour personnes âgées. C'était très instructif. J'étais chargé chaque jour de faire le tour des chambres des personnes qui ne pouvaient plus parler. Donc soit qu'elles étaient dans le coma ou elles étaient très âgées, pour prier avec elles, pour prier à côté d'elles, parce que c'est des gens qui avaient choisi cette maison de retraite parce qu'elle était catholique, parce qu'elle voulait un soutien catholique. Donc il y avait deux prêtres qui célébraient la messe, qui donnaient les sacrements, etc. Bien sûr, pour ceux qui ne pouvaient plus recevoir les sacrements parce que vraiment ils étaient à la fin de leur vie, eh bien le prêtre disait que c'était leur responsabilité quand même qu'il y ait une prière chaque jour, qu'il y ait quelqu'un. Donc moi je faisais ça. C'était au début, c'était un peu difficile, mais humainement ça m'a apporté énormément, ça m'a appris beaucoup, et je me suis lié d'amitié d'ailleurs avec un certain nombre de personnes âgées avec qui la communication d'ailleurs était presque nulle, mais ne serait-ce que par des gestes et par des c'était très beau. Bon, pourquoi je vous raconte ça? Parce que justement dans cette maison de retraite catholique, c'était très intéressant. Quand quelqu'un mourait, eh bien, le corps était mis, était exposé, comme on fait chez les chrétiens. Le corps est préparé, mis en position de, vous voyez, les mains jointes, pour que les gens puissent venir se recueillir auprès du défunt. Pour prier pour son âme, évidemment, auprès du corps du défunt, pour prier pour son âme. Ça, c'est une coutume, vraiment, je vous recommande. Alors, c'est devenu de plus en plus difficile, mais c'est toujours tout à fait possible. Moi, pour le décès de mon père, il y a 12 ans maintenant, on avait fait venir le jour même, le corps avait été rapatrié à la maison. On avait préparé une salle, on avait tout vidé, on avait mis un lit, enfin, ils avaient eu le lit, disons, pour le mort. Et entre le moment du décès et le moment des obsèques, il y a eu peut-être 4 ou 5 jours. Et donc, tous les jours, on allait prier là, on avait mis des bougies. C'était très beau parce qu'il y avait une espèce de présence sacrée, au milieu de nous. Voilà. Et je me souviens même, j'ai déjà raconté ça, je crois, mais que je me souviens aussi de mon grand-père. J'avais 6 ans quand il est décédé, et je me souviens très bien qu'on était allé prier auprès de sa dépouille mortelle dans le salon de la maison de mes grands-parents. Et c'est très instructif. Alors, je dis ça parce que ça, c'est la façon catholique de faire. Quand j'étais dans ce stage-là, en Allemagne, en tant que séminariste, j'avais eu l'occasion aussi de visiter une autre maison de retraite, tout à fait publique, tout à fait laïque, sans présence du tout religieuse. Et là, on m'expliquait justement que il y avait une porte, un système spécial dans l'ascenseur pour que on puisse évacuer jusqu'à la morgue les corps de tous les étages du bâtiment sans risquer que la porte s'ouvre sur d'autres habitants. Donc combien de fois j'ai vu ça dans des maisons de retraite où on dit et Madame Machin, ah elle a disparu, ah elle est pas là, elle est pas disponible. On cache la mort aux habitants de la maison de retraite alors que ils savent très bien qu'ils vont mourir. Bon, donc c'est tout à fait caractéristique, symptomatique de notre société qui prétend jouir de la vie. Mais bah, la condition, c'est d'ignorer la mort, de faire comme si ça n'existait pas, alors que pourtant, c'est ce que nous avons tous en commun. Et c'est ce qui devrait nous réunir. Parce que face à la mort, eh bien c'est là où les hommes bah, peuvent développer leur vertu, parce que face à la mort, on agit en transparence, et on voit la valeur de l'âme de chacun, et non pas des masques que chacun se donne. Alors, je continue. D'ailleurs, non, je vous raconte une anecdote là aujourd'hui, bon, puisque c'est la dernière de la saison. On fait des anecdotes. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça aussi, mais dans cette maison de retraite là que j'avais visitée en Allemagne, j'avais assisté à quelque chose qui avait été vraiment profondément troublant, mais c'était incroyable. Donc c'était un monsieur qui faisait visite de personnes âgées dans les maisons de retraite comme ça, comme œuvre de charité. Et donc il me dit venez dans cette chambre là, je vais vous montrer quelque chose. Et on rentre dans la chambre d'une dame qui avait, je sais pas combien, entre 80 et 90 ans, et qui était dans le coma. Et donc on s'approche, il s'approche, il lui parle, etc. Aucune réaction, comme si elle était endormie. Donc il me dit, cette femme est dans le coma, et donc elle bouge pas. Elle ne bouge pas du tout, elle est nourrie par intraveineuse. Elle est vivante, mais elle n'a aucune réaction au monde extérieur. Et il me dit, je vais vous montrer quelque chose. Donc il me dit asseyez-vous à côté, donc on s'assoit à côté, et il commence à réciter le chapelet en allemand, Notre Père, je vous salue Marie, et la femme se met à dire le chapelet explicitement. Moi je l'ai vu, elle bougeait les lèvres en même temps que lui, elle lisait le chapelet. Et donc c'était très impressionnant parce que il me dit la seule chose où on voit un mouvement, disons, de réaction à une interaction extérieure, c'est la récitation du chapelet. Et donc on a dit le chapelet comme ça, et c'était très, très incroyable. Et puis après, on lui dit au revoir, etc. Et puis plus aucune réaction, plus rien du tout. Donc ça avait été assez émouvant, cette expérience. Et j'ai toujours dit, c'est une grande leçon peut-être sur l'importance du chapelet dans nos vies. La seule chose qui restait à cette femme, c'était la prière. C'était magnifique. Ça donnait un sens sûrement à ce coma. Parfois, on comprend pas très bien pourquoi Dieu permet que des gens. D'ailleurs, avec les discussions sur l'euthanasie, etc. Si on est chrétien, on sait que tout moment de vieillesse, que la période de la vieillesse est une période privilégiée pour la présence de Dieu. Et dire moi je veux mourir parce que je veux pas qu'on voit ma faiblesse, je veux pas passer par cette épreuve de la mort. c'est s'opposer à Dieu. C'est s'opposer à Dieu. Et c'est ça qui est grave, évidemment. Les chrétiens doivent s'opposer clairement à l'euthanasie et voir ça comme un meurtre. C'est tuer quelqu'un, même avec une injection et même en faisant des sourires en disant « Ah, ça va être bien ça s'appelle un meurtre, tout simplement. Un suicide. Et si c'est le médecin qui le fait, ça s'appelle un meurtre. Mais même si la personne est consentante. Si quelqu'un vous demande de le tuer, vous n'avez pas le droit de le faire. Même s'il a de très bonnes raisons. Ou soi-disant de bonnes raisons. Bon. On va pas revenir sur cette discussion de l'euthanasie, mais je pense que, évidemment, j'espère que ceux qui m'écoutent ou qui m'entendront sont tout à fait convaincus de la barbarie de cette proposition, où sous prétexte de la liberté humaine qui a pris tellement d'importance que chacun veut pouvoir décider de sa mort. J'ai même entendu un type là qui avait porté plainte contre ses parents parce qu'il n'avait pas voulu, il n'avait pas décidé de vivre. Et l'orgueil de celui qui dit « moi j'avais pas demandé de vivre, vous m'avez donné la vie, donc maintenant vous me devez quelque chose ». C'est dans la même lignée des droits de l'homme d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure. Si par principe, par définition, j'ai des droits, le monde me doit quelque chose, parce que le monde a la chance de m'avoir au milieu de lui. Revenons à cette question, à nos questions sur les funérailles chrétiennes. C'est la question 354. Quel rapport y a-t-il entre les sacrements et la mort du chrétien? Alors, réponse. Le chrétien qui meurt dans le Christ parvient, au terme de son existence terrestre, à la plénitude de la vie nouvelle commencée au baptême, renforcée par la confirmation et nourrie de l'Eucharistie, anticipation du banquet céleste. Le sens de la mort chrétienne se manifeste à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ, notre unique espérance. Le chrétien qui meurt dans le Christ Jésus part pour habiter chez le Seigneur. C'est une citation de la seconde épître aux Corinthiens. Alors je crois que c'est très clair. Il y a d'ailleurs ce moment dans les funérailles que j'ai toujours beaucoup aimé, si on peut dire. C'est le moment où après la messe, après l'absoute, le cercueil quitte l'église, sort de l'église, et à la suite du prêtre, on met la croix, le prêtre en procession qui sort, puis le cercueil, et le prêtre est revêtu de la chape en général et de l'étole, et c'est un peu, vous voyez, c'est un peu la conclusion de cette cérémonie du baptême qui elle-même est tout à fait magnifique, que l'on faisait dans le baptême traditionnel, à savoir le baptême commençait à l'extérieur de l'église, et puis l'enfant était en entrée dans l'église, par le portail, sous la protection de l'étole du prêtre. Au baptême, au moment du baptême, le petit enfant qui est dehors, le prêtre pose son étole ou la met au-dessus de l'enfant, qui est dans les bras de sa marraine, et dit, on l'appelle par son prénom, Germain, entrez dans la maison du Seigneur. Et donc, l'enfant est porté, entre dans l'église sous la protection de l'étole. Et ça, c'est vraiment magnifique comme cérémonie, puisque le baptême fait membre de l'église, etc. Mais quand on la met en parallèle avec la sortie de l'église, la sortie du corps dans son cercueil pour aller vers le cimetière, il y a une espèce de voilà, c'est l'achèvement, c'est la plénitude, voilà, la plénitude de la vie nouvelle commencée au baptême. Voilà la mort pour un chrétien, donc ce n'est évidemment pas une fin. La mort pour le chrétien, c'est l'achèvement de ce temps de préparation pour entrer dans la vie parfaite du ciel que nous avons préparé, que nous avons attendu, que nous avons désiré. Oui, alors c'est sans doute ça, je disais, ce que tous les hommes ont commencé la mort, mais c'est sans doute ça qui distingue fondamentalement le chrétien du païen. C'est notre regard sur la mort et donc notre regard sur la vie. Parce que pour le chrétien n'a pas peur de la mort. Évidemment, je dis ça, peut-être que sur le moment j'aurai un peu plus peur, mais je veux dire, le chrétien en théorie... Évidemment, il y a la culpabilité, l'incertitude, les émotions, enfin les sentiments, tout, les passions qui peuvent nous faire peur de la mort. Je nie pas l'aspect, disons, humain de la crainte de mourir, mais en théorie, la mort pour le chrétien n'est pas quelque chose de terrible, n'est pas quelque chose qui doit lui faire peur. Au contraire, la mort, c'est ce que nous désirons, puisque le passage nécessaire pour atteindre la vie éternelle. Le chrétien, il vit ici-bas comme une préparation à la vie éternelle. Et c'est ça qui change totalement notre vision du monde, notre vision des autres d'ailleurs, notre vision de notre propre vie. Évidemment, si tout s'achève à la mort, alors il faut avoir le plus possible profité de cette vie, avoir ressenti le plus de plaisir, avoir consommé le plus de choses, avoir d'ailleurs quel qu'en soit le prix, même en profitant des autres, donc on se fait pas choper. C'est un peu la mentalité aujourd'hui du pseudo-humanisme anti-chrétien. Et ça fait toutes les horreurs que l'on peut voir dans le monde aujourd'hui. Donc le chrétien, lui, sait que ses actes vont être jugés, y compris les actes, disons, cachés aux yeux des hommes, et que cette vie n'est qu'un passage, et donc on vit ici-bas en préparation de la vie à venir. Question suivante. Qu'expriment les funérailles? Tout en étant célébrées selon différents rites qui correspondent aux situations et aux traditions locales, les funérailles expriment le caractère pascal de la mort chrétienne dans l'espérance de la résurrection, ainsi que le sens de la communion avec le défunt, surtout par la prière pour la purification de son âme. Alors oui, bien sûr, il faut être dans l'espérance et au moment des obsèques, il faut le savoir. Ne pas exagérer justement la tristesse, mais vous voyez, quelque chose qui m'a toujours un peu frappé, un peu déçu dans beaucoup de cérémonies religieuses contemporaines, c'est que parfois on a l'impression qu'on fait l'apologie du défunt et qu'on oublie qu'il y a quand même un jugement. Donc les chrétiens face à la mort, en particulier la mort de ceux qui leur sont chers, savent qu'il faut d'abord prier pour le repos de l'âme de celui qui a vécu. Ça m'arrive régulièrement d'ailleurs sur les réseaux, les gens me disent mon grand-père vient de mourir, ou j'ai quelqu'un de cher qui est mort, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, parce que les gens ne savent plus, et malheureusement même dans la paroisse parfois on ne sait plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut prier pour l'âme du défunt, et si possible auprès de son corps, s'il est disponible, et l'accompagner, effectivement, accompagner ses derniers moments en s'adressant à Dieu pour que Dieu accueille la personne décédée dans son éternité. D'ailleurs, vous le savez, les prières, parce qu'on peut dire, s'il est déjà mort, c'est trop tard pour la prière. Mais non, parce que la prière ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que Dieu peut sauver quelqu'un et lui faire miséricorde au moment de sa mort en raison des prières qui seront faites pour la personne après coup. Parce que Dieu étant hors du temps, il sait très bien quelles sont les prières qui vont être faites. Et ensuite, il faut faire dire des messes. Voilà la réponse. Que faut-il faire lorsque quelqu'un qui nous est cher ou même pas, lorsque quelqu'un meurt? Eh bien, il faut dire des messes, parce que la messe est évidemment, je vous rapporte à nos études sur l'Eucharistie, c'est évidemment la prière de l'Église, la plus belle des prières de l'Église, puisque c'est la présence de l'œuvre de rédemption du Christ lui-même. Donc la messe, et la messe des défunts est magnifique. Malheureusement, elle a été aussi assez transformée dans le rite nouveau, mais la messe de Requiem avec le Dies Irae, j'ai d'ailleurs toujours apprécié, je trouve ça c'est très beau, les messes de Requiem, parce que quelle que soit la tristesse, le désespoir de ceux qui restent, de ceux qui sont vivants, eh bien, l'Église s'est apaisée. C'est-à-dire que, en fait, dans une messe de Requiem bien faite, bien chantée, avec une belle liturgie solennelle ou tout en noir, vous voyez, mais avec l'encens. En fait, on a vraiment l'impression qu'on confie le défunt à l'Église et que c'est l'Église, dans toute sa puissance de prière, qui, dans ses rituels très anciens, avec ses prières en latin, qui sortent de la nuit des temps. Eh bien, qui se charge de l'âme, parce que là, l'homme ne sait plus, c'est plus par le. Vous voyez, dans ces cérémonies d'obsèques où chacun vient faire un témoignage, raconter un truc, franchement, c'est tellement humain. Alors c'est beau, on peut faire ça après, avant, enfin c'est rendre un hommage à la personne, pourquoi pas. Mais la messe ne doit pas être le lieu de l'expression de ces sentiments humains. La messe doit être le lieu où la messe de Requiem doit être le lieu où on confie l'âme à la puissance de prière de l'Église, à l'œuvre de rédemption de l'Église, c'est-à-dire l'œuvre du Christ, tout simplement. Et il y a quelque chose qui se fait de moins en moins, malheureusement, mais moi, j'essaie de le faire dès que c'est possible. C'est lorsque le cimetière est pas trop loin de l'église où a lieu la cérémonie, de porter en procession le cercueil. Voilà, donc les obsèques de mon père, de mes oncles et tantes, chez nous en Bretagne, à Erquy. C'est très très beau parce que le cimetière est un peu en hauteur avec une vue magnifique sur la mer, alors que l'église est dans le village. Et puis il y a je sais pas combien, il y a 500 mètres. Et donc, combien de fois j'ai parcouru cette rue en chantant et en priant derrière le corbillard qui roule au pas comme ça, et avec les enfants de cœur, avec toute la famille, tous les gens présents qui suivent. Et en fait, c'est très très beau parce qu'on se dit, bah là, on a confié l'âme du défunt à l'Église. Et puis c'est voilà, maintenant c'est l'Église qui s'en charge, c'est la prière des saints de tous les temps, etc. Alors c'est l'occasion pour terminer justement la dernière question, parce que j'aimerais parler justement de l'importance de l'enterrement. Alors, quels sont les moments principaux des funérailles? Habituellement, les obsèques comprennent quatre moments principaux. L'accueil de la dépouille mortelle par la communauté, accompagné de paroles de réconfort et d'espérance. Voilà, c'est là où ça peut un peu dégénérer, hein, une espèce de... enfin, se transformer en une espèce d'apologie de très humaine, humaniste, voilà. Donc, ça va être quelque chose de tout à fait symbolique. La liturgie de la parole, le sacrifice eucharistique. D'ailleurs, oui, ça c'est... Bon, on a déjà parlé de la liturgie en commençant cette saison, mais c'est toujours cette idée qu'il y a la liturgie de la parole et puis le sacrifice eucharistique, comme si c'était deux choses différentes. D'ailleurs, parce que parfois, il n'y a pas d'Eucharistie quand il n'y a pas de prêtre. Donc, on lit des passages de l'Évangile. Bon, la messe, quoi. Et puis, l'adieu, par lequel l'âme du défunt est confiée à Dieu, source de vie éternelle, tandis que le corps est enseveli dans l'attente de la résurrection. Donc, voilà où je voulais en venir. Il faut que les chrétiens retrouvent le sens de l'ensevelissement des corps, de l'enterrement. Ce n'est pas chrétien comme attitude. La crémation n'est pas une attitude chrétienne. Alors évidemment, c'est pas un péché dans le sens où c'est possible dans certaines situations. L'Église a toujours autorisé la crémation, par exemple en cas d'épidémie ou en cas de guerre, s'il y a beaucoup de corps, parfois même pour des questions sanitaires, la crémation des corps est possible. Mais l'attitude chrétienne, d'ailleurs, ce qui distingue les chrétiens de beaucoup de peuples païens ou de traditions païennes depuis l'Antiquité, c'est celle-ci, c'est de dire on enterre le corps. Pourquoi? Parce que on attend la résurrection, parce qu'on croit à la résurrection des corps. On en a parlé à la fin de la première saison, ce dogme de la résurrection des corps. Nous croyons que nos corps ressusciteront. Alors évidemment, ils ne ressusciteront pas dans l'état dans lequel ils sont morts, parce que bon, celui qui est mort, hein, qui est dans la voiture, pas de bol, mais ça fait pas des zombies. Mais chacun ressuscitera avec son corps glorieux. Comme le Christ est ressuscité avec son corps, et un corps glorieux, un corps transformé, où on voyait encore les plaies de sa crucifixion, mais un corps magnifique, évidemment, lumineux, et puis subtil, comme on dit, puisqu'il passait à travers les portes, puisqu'il se retrouve au milieu des apôtres, alors qu'il n'était pas là. Donc, voilà ce que nous attendons la résurrection des corps. Nous attendons ce moment où, parce que Dieu nous a créé, pas simplement esprit, Dieu nous a créé esprit, un esprit dans un corps. Et c'est pour ça qu'il faut aimer et respecter son corps. Dans tous les de toutes les façons, il faut pas maltraiter son corps, ce serait un péché de maltraiter son corps, ce serait un péché de faire du mal au corps que Dieu nous a donné par des abus quelconques. Voilà, il faut retrouver ce sens de l'enterrement, du respect dû au corps. Il y a un très très beau geste d'ailleurs, je conclue par là, dans la messe, c'est évidemment le moment à l'offertoire, lorsqu'on le prêtre encense les oblats, donc ce qui a été offert, le pain et le vin offert pour être consacré, et bien ensuite on encense les personnes, alors le prêtre qui célèbre, les servants de messe, et puis on encense tous les fidèles présents. Et cet encensement nous vise à nous faire rappeler ce que on se souvienne que nos corps sont le temple de la vie de Dieu. Mais vu que Dieu vit dans notre âme par la grâce, eh bien nos corps sont comme un temple, comme des églises. Vous voyez, qui ont la présence de Dieu en elles-mêmes. Comme le temple dans l'Ancien Testament, le temple de Jérusalem, où il y avait la présence de Dieu dans le Saint des Saints. Et donc, ce temple, il faut le respecter. Voilà, on ne profane pas un lieu sacré qui a contenu Dieu. De la même façon, nos corps, même le corps qui est mort, eh bien, il faut le respecter comme lieu de la présence de Dieu et dans l'attente de la résurrection, l'attente de ce moment où nous serons réunis tous dans l'éternité. Et ce sera bien sympathique, puisqu'il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de déception, puisque tout sera parfait, parce que tout sera accompli dans la perfection divine, dans l'immensité de la perfection divine. Voilà quelques belles paroles pour conclure cet épisode et conclure cette saison. Alors, comme toujours, déjà, prions l'Esprit Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie ces enseignements de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci, une fois encore, à tous de votre fidélité pendant toute cette année, toute cette saison, de votre écoute attentive. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je suis assez étonné chaque semaine entre YouTube et les plateformes de podcast, il y a environ 3000 personnes qui écoutent chaque semaine de façon systématique l'épisode, et puis ensuite quand le temps passe, les épisodes sont écoutés par bien plus de monde, donc je suis très heureux si ces enseignements peuvent enrichir votre foi, vous faire grandir dans la foi et dans la charité, dans l'amour de Dieu. Alors, c'était l'abbé Mathieu Raffray. Priez pour moi. Je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, à la rentrée prochaine, pour une nouvelle saison de Sursum Corda.